de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard le 6 février 1992.
la signification est infinie, l'autre dont la signification est finie. Alors, c'est d'abord l'attribution. Toute attribution implique une appréhension. Et donc, on pourra parler d'universel univoque et d'universel analogique. On pourra parler de concept univoque et de concept analogique. Donc, vous voyez comment il faut aborder le problème, hein, toujours par le biais sous lequel c'est pour nous le plus simple. Il y a des concepts univoques et des concepts analogiques. Le concept générique est univoque. Le concept d'être est analogique. Le concept des transcendentaux est analogique. C'est-à-dire qu'il y a une ratio commune, la ratio boni, qui a quelque chose de commun et qui pourtant a une très grande diversité. Alors vous trouvez ça donc dans toutes les attributions qui regardent ce qui est comme tel. Alors, c'est pour ça que le fondement de l'analogie de l'être va reposer sur les divisions fondamentales de l'être. Ces divisions fondamentales de l'être divisent fondamentalement la signification de l'être. Autre et l'être en tant que substance. Autre et l'être en tant que qualité. Autre et l'être en tant qu'acte. Autre et l'être en tant que puissance. Et vous êtes en présence de modalités diverses de l'être qu'on saisit. Donc la signification de l'être est tout autre pour l'être en acte et l'être en puissance. La signification de l'être est tout autre. La signification de l'être comme substance et comme qualité est différente. Je ne dis pas qu'elle est tout autre. C'est dans ce sens-là qu'on distinguera et qu'on verra dans saint Thomas l'analogie ad unum et l'analogie de proportion. Bon, il faut le savoir, hein, ce sont des mots. Il y a des choses qu'on doit apprendre dans un langage particulier. L'analogie ad unum implique un ordre entre les différentes significations. Une signification qui commande toutes les autres. Donc elle est ad unum, vers l'un. Et cet un, c'est la substance. Toutes les analogies, toutes les significations des prédicaments impliquent une diversité, mais un ordre. Et cet ordre, il est intelligible dès que je saisis le premier de cet ordre. Et le premier de cet ordre, c'est la substance. Donc là, je suis en face d'une analogie qui implique un ordre, un premier. Quand il s'agit de l'être en acte et de l'être en puissance, je suis en face d'une analogie de proportion. Il n'y a plus d'ordre. C'est beaucoup plus radical. Parce que tant qu'il y a un ordre, il y a une forme commune. Tandis que quand il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus de forme commune. On est devant une diversité totale. Alors voyez que le fondement de l'analogie, c'est la division de ce qui est comme être. Et c'est cela qui commande les deux types d'analogie. L'analogie ad unum, celle de la substance et des qualités. L'analogie de proportion, celle qui est l'être en tant qu'acte et l'être en tant que puissance. Est-ce que vous voyez bien ça, tous? C'est capital de voir ça, hein? Parce qu'autrement, l'analogie est un procédé de souplesse de l'intelligence, mais de très grande rigueur. souplesse peut aller avec la très grande rigueur. Parce que je crois qu'il y a deux procédés de la vie de l'intelligence. Mon intelligence progresse grâce à l'analogie. Mon intelligence, autrement, progresse grâce à la dialectique. Ce sont les deux grands procédés de la vie de l'intelligence. Une intelligence dialectique, une intelligence analogique. Une intelligence analogique, c'est l'intelligence qualitative des différentes modalités de ce qui est comme tel. L'intelligence dialectique est une intelligence qui divise elle aussi, vous voyez. Des deux côtés, on trouve la division. Mais la place est une division qui se prend d'une manière organique. Et de l'intérieur, c'est une division qui vient de l'extérieur. Je fais toujours la comparaison pour que vous compreniez mieux. Il y a diverses manières de découper un poulet. Ou vous le découpez organiquement. Ou vous le découpez avec un sécateur. Vous coupez dedans. Comme ça. Donc c'est plus du tout organique. C'est tout simplement 100 grammes, 100 grammes, 100 grammes. 200 grammes, 200 grammes, 200 grammes. Je veux 200 grammes de poulet. Très bien. Vous aurez 200 grammes de poulet. Avec les sauces en plus. Ah, je veux une pâte de poulet. Un poulet à 1000 pâtes. C'est ça que je veux. Ah, alors là, c'est organique. Donc d'un côté, c'est qualitatif. Et de l'autre côté, c'est quantitatif. Ah, ça, c'est très intéressant. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment d'un côté on va vers la dialectique et comment de l'autre côté on va vers un procédé analogique. Des deux côtés, je divise. Parce que le procédé propre de l'intelligence est divisé. On divise pour voir clair. On divise un tout confus pour voir clair. C'est ce qu'on fait. Instinctivement, dès qu'on divise, on rend les choses plus nettes et plus claires. Or, il y a une division qui se fait au niveau quantitatif. La quantité implique ce tout confus. Et le tout confus est ramené à quelque chose de beaucoup plus déterminé grâce à la division. Et je peux diviser de l'intérieur d'une manière organique. D'une manière qualitative. Et j'essaie de saisir ce qui est divisible dans le poulet sans l'abîmer. On voit tout de suite quelqu'un qui sait diviser un poulet. Puis c'est celui qui ne sait pas du tout. Alors, transposer analogiquement pour l'intelligence humaine. Il y a des intelligences humaines qui savent diviser organiquement, analogiquement. Et il y a des intelligences humaines qui ne le savent pas, parce qu'elles n'ont jamais voulu apprendre. Alors ça s'apprend, comme tout. On apprend à découper un poulet. Celui qui ne veut pas apprendre, mais jusqu'à la fin de sa vie, il prendra un sécateur sans plus vite fait. Puis celui qui veut apprendre, alors il essaie de comprendre les nervures de ce qui est. Comment prendre les nervures d'un poulet. Parce que l'être n'est pas uniforme par nature. C'est la quantité qui est uniforme. C'est la quantité qui est source d'uniformité. Ce qui est comme tel est source de diversité. Et cette diversité qui permet de diviser organiquement et qualitativement. Et les deux grandes divisions de l'être, je les atteins à partir de l'induction. La découverte de la substance et de la qualité. essayer de bien le saisir, parce que c'est quelque chose qui revient tout le temps. Oui, c'est propre à l'intelligence humaine. La raison est quantitative. L'intelligence est qualitative. La raison est quantitative, ça c'est sûr. Et la raison est laissée à elle-même, divise quantitativement. L'intelligence, elle, est qualitative et elle essaie toujours de s'approcher de la réalité d'une manière organique, intelligente, sans abîmer la réalité. Parce qu'avec le sécateur, vous abîmez tout. Vous n'avez plus qu'à recoller après. Vous avez tout abîmé. Vous ne reconnaissez absolument pas le poulet quand vous avez passé le sécateur. D'un autre côté, vous le reconnaissez. Voilà. Et c'est très important, vous voyez, quand on est un tout petit peu habitué à la philosophie, quand vous voyez un nouveau type de philosophie qui apparaît, vous n'avez qu'à regarder la table des matières. Parce que la table des matières, c'est la division du bouquin. Et vous êtes très attentif à la manière dont on divise. Vous pouvez tout de suite discerner si vous êtes en présence d'une division qualitative ou une division quantitative. Et alors une fois que vous êtes un peu habitué, c'est très vite fait. Et vous regardez les quelques nervures fausses. Bon, je continue. Je vous disais que c'était important de comparer ces deux saisies. La substance, principe selon la forme. L'acte, principe selon la fin. Il y a deux causalités dans l'ordre de l'être. La forme et la fin. Il n'y en a pas d'autre. Donc les quatre causalités reviennent à deux en métaphysique. C'est pour cela que la métaphysique est si simple. Parce qu'il n'y a plus que deux causalités. Donc dès que vous êtes en face des réalités physiques, il y a toujours les quatre causalités. Et quelquefois les cinq. Les cinq quand vous êtes en face de réalités artistiques. Alors, étant donné le caractère très subtil et très délicat de l'être en acte, saisi comme substance, saisi comme acte, on peut découvrir comme diverses grandes modalités de la division de l'être en acte et de l'être en puissance. Étant donné que cette division est très fondamentale, et on la retrouve dans toutes les parties de la philosophie. Alors on va essayer de détecter, de découvrir, de dévoiler les quelques grandes applications de l'être en acte. Je réfléchis. Avant de découvrir l'être en acte et l'être en puissance, j'ai découvert le point de vue de la substance. Et j'ai découvert substance première, substance seconde, au niveau des prédicaments. Puis j'ai découvert l'ousia principe. Principe propre. Selon la forme de ce qui est. Voilà l'ousia. L'ousia, principe propre selon la forme de ce qui est. Faut essayer de comprendre ce que ça veut dire. Hein. Pas seulement l'apprendre, mais comprendre ce que ça veut dire. La source de toutes les déterminations. La forme est toujours une détermination. Un principe comme tel ne peut pas se diviser. Il est indivisible. la substance. Substance première, substance seconde, au niveau des prédicaments. Je répète exprès pour que petit à petit vous arriviez à être très souple dans tous ces domaines qui ne sont pas commodes au début. Donc, deux modalités de la substance. Alors, est-ce que je peux distinguer là un aspect de l'être en acte et de l'être en puissance? Vous voyez, j'applique l'être en acte et l'être en puissance. Du moins, je ne l'applique pas, mais je veux la découvrir. Alors, je dirais que la substance seconde, c'est homme. C'est la nature. La substance première, c'est pierre. Comme tel n'existe que dans mon intelligence. Vous n'avez jamais vu homme abstrait exister en dehors de votre intelligence. Donc homme, la nature, existe dans mon intelligence. Pierre existe par lui-même. Homme n'existe pas par lui-même, il n'existe que dans mon intelligence. Il y a un fondement dans la réalité, c'est sûr, mais comme homme, c'est-à-dire ayant un mode universel, il faut qu'il soit pensé par l'intelligence. L'universel comme tel n'existe pas par lui-même, il n'existe que dans l'intelligence. Alors, je peux commencer à dire, première division, première modalité, de l'être en acte et de l'être en puissance, c'est au niveau de l'essai. C'est très intéressant. intéressant de voir que saint Thomas, quand il veut préciser ce qu'est laisser c'est l'être. C'est le verbe être à l'infinitif. Un verbe peut être pris sous la forme infinitive. À ce moment-là, on le prend d'une manière quasi substantielle. L'être. Vous hypostasiez par le langage le verbe. Voyez, le verbe ceci est. Est. Le verbe présent est relatif à ceci. Il est attribué à ceci. Mais vous pouvez regarder être sous la forme de l'infinitif. Et vous le regardez pour lui-même. Le verbe est toujours relatif à quelqu'un. Mais vous pouvez avoir une forme qui isole le verbe de son sujet et le considérer pour lui-même. Pierre marche, et je peux dire marcher. C'est pas la même chose de dire marcher et Pierre marche. C'est très curieux que mon intelligence réalise cette chose très curieuse. C'est l'intelligence qui a fabriqué les verbes. C'est l'intelligence, le verbe être. Il ne s'est pas baladé tout seul. Et l'intelligence a éprouvé le besoin d'avoir la forme de l'infinitif. Pourquoi ? En prenant la forme de l'infinitif, vous faites que le verbe qui est relatif, le nom, le verbe, vous faites que le verbe qui est relatif devient un nom. Vous faites du verbe un nom. Pourquoi ce besoin de l'intelligence de faire du verbe un nom? Celui qui fait de la grammaire, il constate, c'est tout, vous avez le verbe infinitif. Vous vous êtes jamais posé la question pourquoi ça? Les philosophes se posent la question pourquoi? Pourquoi ce besoin de thématiser le verbe, comme on dit aujourd'hui, de le regarder pour lui-même et de le séparer de son sujet. Quand il est lié à son sujet, je ne le vois jamais pour lui-même. Je le vois toujours relatif à. Or, c'est intéressant de saisir la signification propre de être. Pour saisir la signification propre de être, je prends la forme infinitive. Je l'hypostasie. Je le vois pour lui-même. Je regarde pour lui-même. Qu'est-ce que c'est que l'être? Vous ne dites pas qu'est-ce que c'est que est et. Vous dites qu'est-ce que c'est que l'être? Oui, ce besoin de l'intelligence de séparer, d'isoler, de donner au verbe sa signification propre, ou plus exactement de regarder le verbe dans sa signification absolument pure. C'est le besoin de Platon de regarder l'homme en soi, de regarder la forme en soi, de regarder l'être en soi, donc de le regarder pour lui-même, de l'isoler. L'intelligence éprouve ce besoin de connaître les réalités à l'état pur. Alors, j'hypostasie le verbe. Il faut réfléchir là-dessus, c'est très très intéressant. Parce que, au fond, c'est votre manière d'exprimer le conditionnement et de vous séparer du conditionnement. Ceci est conditionnement du verbe être, il est relatif à ceci. C'est radical. Mais vous pouvez l'isoler et le regarder indépendamment du conditionnement. Je veux dire l'être. Oui, savoir sa signification propre. Et là, je touche l'intelligence dans sa recherche propre de connaître pour connaître, de savoir pour savoir. Connaître ce que c'est le verbe être. Qu'est-ce qu'il est ? Donc, voyez ce besoin de former cette forme pour le verbe de l'infinitif, pour que le verbe soit regardé pour lui-même et uniquement pour lui-même. Je le sépare du reste et je le prends pour lui-même. L'intelligence alors abstrait d'une manière très particulière pour connaître le blanc. Je le sépare du mur, du visage, de la toile, du pavé, de toute une série de choses. C'est le blanc du mur, le blanc de l'étoffe, le blanc du visage. Et je formalise le verbe être et je prends la forme infinitive. Vous voyez, les deux côtés, abstraction universelle, abstraction formelle. C'est très très curieux et ça c'est l'intelligence qui a ce besoin de connaître. Alors il faut bien saisir ces deux formes essentielles de l'abstraction. Essayez de comprendre pourquoi ces deux formes essentielles de l'abstraction. C'est pour aller toujours plus loin dans l'ordre de la connaissance et de la division. Je divise pour connaître. Je sépare pour connaître. Et j'éprouve ce besoin pour regarder les réalités en elles-mêmes, dans ce qu'elles sont de tout à fait particulier. Donc, quand saint Thomas veut préciser qu'est-ce que c'est que l'essai, l'être, il dit « actus essendi ». Ça, c'est dans saint Thomas. L'acte de celui qui doit être essendi, la forme gérondive. L'acte de celui qui doit être. Donc, saint Thomas définit, du moins, se sert. C'est ça qu'il faut bien saisir. Saint Thomas se sert de l'acte pour préciser ce que c'est que l'essai. Saint Thomas ne dit jamais que l'acte c'est l'essai. Oui, il dit que actus essendi c'est l'essai. Donc il précise ce qu'est l'essai par l'acte. Ça, facile à comprendre dès qu'on lit un peu saint Thomas. Ce qui prouve que pour lui, l'acte comme tel est quelque chose de plus radical que l'essai. Puisqu'on se sert de l'acte pour préciser ce que c'est que l'essai. L'essai est une modalité de l'acte. C'est une modalité de l'acte. Actus essendi. Mais ce n'est pas l'acte. Saint Thomas dira aussi dans le De Hebdomadibus que esse, c'est l'abstrait de es. Quand il veut regarder qu'est-ce que veut dire ens et qu'est-ce que veut dire esse, c'est l'abstrait parallèle à blanc, blancheur. Ça aussi, c'est très important de bien comprendre ça. C'est toujours dans le langage de saint Thomas. Hein. Et c'est important, puisque l'essai dans saint Thomas a des significations très diverses. Il y en a cinq. Il ne faut pas se tromper en fonction du contexte. Alors, je prends essai comme la forme abstraite de ens. C'est la forme abstraite comme blancheur et la forme abstraite de blanc. Je n'ai pas l'expérience de blancheur. Je n'ai pas l'expérience de essai. J'ai l'expérience de ce qui est. Comme j'ai l'expérience du mur blanc. Mais vous n'avez jamais eu l'expérience de essai, de l'être. Vous avez l'expérience de ce qui est, pas de l'être. Ça devient dangereux si vous dites que vous avez l'expérience de l'essai. Ça prouve que ça perd un peu pédale. Vous ne distinguez plus ce dont vous avez l'expérience et ce dont vous n'avez pas l'expérience. Quelqu'un qui ne distingue plus entre blanc et blancheur, on dit qu'il perd pied, qu'il perd pédale. C'est plus très bien. Celui qui ne distingue pas entre SC et ENS perd pied. Voyez bien, c'est capital, ça. C'est dans le De Hebdomadibus de saint Thomas. C'est là où il le dit de la façon la plus radicale. C'est un petit traité merveilleux. Saint Thomas commente Boès. Alors, il faut bien comprendre que la première modalité de l'acte au niveau métaphysique, c'est l'essai. L'essai, c'est l'acte de ce qui est capable d'exister. Ce qui est capable d'exister. Actus essendi. Ce qui est en vue d'exister. C'est l'acte. L'essai. Donc l'essai peut être un acte substantiel. Actus essendi. L'essai peut être un acte accidentel. Quel est l'exister, l'essai de la blancheur, du blanc, du mur? Le blanc dans le mur existe, mais n'existe pas substantiellement, puisque le blanc est une forme accidentelle. Et donc son exister est aussi une forme accidentelle. Donc l'essai peut être substantiel ou accidentel, suivant qu'il vient déterminer, actuer telle ou telle nature. Donc première modalité de l'acte, l'essai. Je crois ça très important. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec Gilson. Parce que pour Gilson, il le dit textuellement, pour Gilson, c'est l'essai qui détermine la métaphysique de saint Thomas. Ce qui lui fait dire que la métaphysique de saint Thomas n'est pas la métaphysique d'Aristote. Alors, il ne comprend pas très bien la métaphysique d'Aristote, puisqu'il dit que la métaphysique d'Aristote, c'est une ousiologie. Ousiologie, c'est-à-dire, c'est une métaphysique de la substance. Comme si Aristote n'avait regardé que la substance en métaphysique. Or, Aristote regarde la substance et l'acte. La substance, ce qui est premier selon la forme. L'acte, ce qui est premier selon l'acte. Alors, il oublie que la métaphysique d'Aristote, c'est la métaphysique de l'acte. Et il ne comprend pas que l'essai, c'est actus essendi. Et donc, au-delà de l'essai, il y a l'acte. Et l'acte est un principe au sens tout à fait rigoureux, puisque c'est une fin. Et donc, c'est saisi directement à partir de ce qui est, en acte. Donc, il faut se rappeler ça, parce que depuis Gilson, ça s'est répété dans le thomisme énormément. Gilson avait autorité. Professeur de métaphysique de Saint-Thomas qui est passé ici, je n'étais pas là, il est passé à Rimont plus exactement, je crois. Lui est entièrement Gilson. Quand je l'ai vu en Pologne, il m'a dit il y a entre nous quelque chose, c'est que nous ne sommes pas du même avis par rapport à Gilson. Je dis oui, mais ça m'importe peu. C'est Saint-Thomas qui m'intéresse. C'est pas Gilson, c'est Saint-Thomas. Est-ce que Gilson a parfaitement compris Thomas d'Aquin, ou est-ce que Gilson l'a compris à sa manière, comme un sorbonnard, c'est-à-dire à partir de Descartes? C'est très curieux, mais c'est comme ça. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que Gilson, de fait, a été chef de file. C'est la première chose que le Saint-Père m'a posée. Que dites-vous de Gilson? À ce moment-là, je ne savais pas que son professeur de métaphysique était entièrement Gilson. Alors, c'est important, parce que il faut chercher qu'est-ce que c'est que la métaphysique de l'acte, de l'être en acte. Et comprendre si l'essai de saint Thomas est une pénétration plus profonde dans ce qui est que l'acte. Que saint Thomas mette en pleine lumière l'essai, c'est bien évident, parce qu'il est un théologien. Donc, il part tout de suite de la création. Et il montre que laisser participer est la raison formelle de la création. Il parle de laisser participer. Il ne dit pas l'acte. L'acte est un principe, donc il n'est pas créé directement. C'est le fruit d'une analyse. Tandis que l'essai, je constate, jugement d'existence, ceci est. Tandis que je ne saisis pas immédiatement l'acte. L'acte est le fruit d'une induction, pas l'essai. C'est pas le fruit d'une... L'essai n'est pas saisi à partir d'une induction. Il est saisi à partir de l'expérience. Ceci est. Ce qui montre bien que mon intelligence n'a pas la même relation à l'égard de l'essai et à l'égard de l'acte. Il y a une profondeur plus grande de l'intelligence à l'égard de l'acte qu'à l'égard de l'essai. Quand Gilson m'a dit que la métaphysique d'Aristote était distincte, que la métaphysique de saint Thomas était distincte de celle d'Aristote, je lui ai dit, dites-moi, quel est le principe propre au niveau de l'être que Thomas d'Aquin a saisi et qu'Aristote n'a pas saisi? Alors il n'a pas su me le dire. Alors je dis, tant que vous ne me le dites pas, je dirais que c'est la même métaphysique. Puisque pour saint Thomas, une science ne se distingue d'une autre science. dans ses principes propres. Or, je ne connais pas d'autres principes propres de ce qui est que la substance et l'acte. Or, ça, Aristote le dit. Et saint Thomas le redit. L'essai, pour saint Thomas, est une modalité de l'acte. Et quand je dis modalité, je veux dire ce qui ne peut se comprendre que dans la lumière de l'acte. Et si cela ne peut se comprendre que dans la lumière de l'acte, ça prouve que l'acte est radicalement quelque chose de plus connaissable que l'essai. Quelque chose qui me permet de pénétrer plus avant dans la réalité. Voilà. Je ne dis pas plus que ça, c'est suffisant. Réfléchissez les rapports entre l'essai et l'acte dans saint Thomas, dans Aristote, dans la réalité. Parce qu'il faut tout le temps revenir à la réalité. Jugement d'existence. C'est à partir du jugement d'existence que j'ai découvert l'acte. Et une fois que j'ai découvert l'acte, je peux donner au jugement d'existence une expression plus profonde, plus subtile. Seconde modalité de l'acte.
Parce que
esprit. Et donc, j'ai une intelligence capable de connaître la vérité, que je peux distinguer la seconde modalité de l'acte en disant c'est le vrai. Et la troisième modalité de l'acte, c'est le bien. Le bien et le vrai sont des formes particulières de l'acte, des modalités particulières de l'acte. On pourrait dire, voyez, le vrai, c'est l'acte de l'intelligence. Et le bien, c'est l'acte de la volonté. Ou, si vous aimez mieux, le vrai, c'est l'acte pour l'intelligence. Et le bien, c'est l'acte pour la volonté. Donc, c'est par rapport à l'esprit que je peux distinguer ces deux modalités, du vrai et du bien. Je peux ensuite regarder une quatrième modalité dans l'ordre de la vie. Et je parle des opérations vitales. Et une cinquième modalité au niveau du devenir. Le mouvement. Il y a donc cinq